Bonjour Frédéric, d'abord, comment sortons-nous de ces 5 ans dans la Chine de Xi Jinping?
Bonjour, on en sort différent. Je pense que l'homme que je suis aujourd'hui n'est plus celui que j'étais il y a 5 ans parce que la Chine m'a beaucoup marqué.
Alors tu fais une confidence, enfin un aveu en tout cas dès le début du livre, tu écris « On ne couvre pas la Chine quand on est correspondant à Pékin ». On couvre quoi alors?
La Chine est moins un pays qu'un continent, donc je pense que quand on est un ou deux journalistes pour une rédaction pour couvrir un tel ensemble, c'est illusoire de penser véritablement couvrir ce pays. On essaye de décrypter l'actualité politique, l'actualité internationale et être au cœur de la société, en tout cas d'une partie de la société chinoise, mais il faut être conscient des limites de l'exercice.
Alors, ces 5 ans ont été marqués par une actualité plutôt riche, hein. On va dire quand même il y a eu la pandémie de Covid, pandémie mondiale, et puis il y a eu ces manifestations notamment qui ne s'étaient pas vues depuis 30 ans. Alors, il y a eu à Pékin, à Shanghai et dans d'autres villes. Et parmi les choses que tu écris et qui démythifient un peu, enfin en tout cas qui enlèvent certains clichés qu'on pourrait avoir sur ce pays, c'est que le gouvernement chinois, le régime chinois, doit tenir compte de l'opinion chinoise.
Oui, clairement, moi je pense que les gouvernements occidentaux surestiment l'influence qu'ils peuvent avoir sur Xi Jinping. En revanche, ils sous-estiment l'influence de la société chinoise, sur le gouvernement chinois, qui, ayant placé la stabilité, comme valeur cardinale, doit tout faire pour satisfaire la population. Ça me paraît très fort. S'il n'y a pas de société civile chinoise constituée, il y a bel et bien une opinion publique chinoise qui sait se faire entendre.
Tu fais partie des correspondants qui ont travaillé sous le zéro Covid, enfin dans cette Chine fermée pendant l'épidémie, avec parfois les seules possibilités de sortir et d'aller faire du reportage pendant les années où c'était vraiment serré ici, les voyages officiels. Et on apprend quelque chose en lisant ton livre, c'est que les propagandistes chinois ont la langue bien pendue, si j'ai bien compris.
Oui, les voyages officiels sont intéressants à double titre. Et d'un, il est toujours intéressant de savoir ce que la propagande a à nous dire, parce que voilà, c'est la vérité officielle du moment. Et surtout parce que quand on voyage une semaine avec des gens chargés de la propagande, ils se confient à toi, ils se montrent des photos de famille, on parle famille, on parle argent, on parle même politique. Et ce qu'ils ont à dire est très différent de la vérité officielle. Deux exemples précis, j'ai une propagandiste qui était manifestement très intéressée par le cours de la bourse à Shanghai, peut-être davantage qu'elle ne l'est par la réalité politique chinoise, et une autre propagandiste qui, à la fin d'une conversation, m'a quand même dit: Ah, quelle chance vous avez d'élire votre président.
Effectivement. Dans un des chapitres, tu parles aussi du mythe de l'État orwellien. C'est aussi une façon de briser le cliché sur ce crédit social et ce mythe de l'État orwellien. Comment on échappe quand même quand on est journaliste, enfin quand on est citoyen d'ailleurs en Chine, au traquage quand tout passe par les smartphones? Je crois qu'à ton arrivée, tu te méfiais un peu des applis notamment, des applis de paiement.
Oui, je pense qu'on n'échappe pas au traquage par les téléphones portables. Ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est qu'il n'y a pas une note globalisée, il n'y a pas un crédit social. Les journalistes comme les Chinois n'ont pas une note globale en fonction de leur comportement civique, la façon dont ils traversent la rue ou de leur comportement politique. Mais évidemment, il y a des caméras partout et nos téléphones sont à la fois nos meilleurs amis et nos pires ennemis parce qu'ils disent absolument tout de nous. Et c'était le cas pendant la période zéro Covid où il suffisait d'entrer dans un magasin, où la moindre entrée dans un magasin plutôt était scannée par le QR code et donc les autorités savaient où nous allions. D'un autre côté, si l'on ne pouvait pas voyager d'une ville à l'autre, c'est aussi parce que les autorités locales ne se faisaient pas mutuellement confiance et tout déplacement intérieur du pays nécessitait généralement des tests à la sortie de la ville, mais également à l'entrée de l'autre ville. Donc il n'y a pas un grand système Big Brother national, même si effectivement les outils sont en place pour qu'un jour ils apparaissent. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, et il faut le dire.
Tu évoquais la société civile. Il y a beaucoup de rencontres dans ce livre, des rencontres avec des Chinois, des rencontres amicales, professionnelles. Et certains de ces Chinois, tu n'as pas pu les inviter à ton pot de départ. Je pense notamment à ce professeur d'une grande université de la capitale qui ne pense qu'à la retraite et en tout cas à partir à l'étranger. Comment on protège ses sources quand on est correspondant en Chine?
C'est effectivement un point essentiel pour les journalistes. Bien qu'ayant 60 ans, je crois qu'il ne m'était jamais arrivé jusqu'à présent de m'auto-censurer comme je l'ai fait en Chine, pas pour moi, mais pour protéger mes interlocuteurs. Il faut effectivement déployer des trésors d'imagination et de prudence, d'ailleurs, pour contacter des Chinois sans passer par la fameuse messagerie WeChat qui nous relie tous dans l'empire du milieu. Et donc, eh bien, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le contact physique, justement, le bon vieux contact en tête-à-tête, et passer par des amis d'amis, des connexions, voilà. Mais c'est un défi de plus en plus difficile à relever, et ça, c'est un vrai problème.
La guerre de Taïwan aura-t-elle lieu? C'est une question qu'on se pose, je crois, hein, quand on est correspondant en Chine. Est-ce que les craintes, ou en tout cas, enfin, se poser la question, c'est déjà accepter que ce soit possible, hein, donc c'est une évolution, mais est-ce que les craintes, la réflexion sur la possibilité d'un tel conflit a évolué depuis ton arrivée il y a 5 ans?
Oui, je pense que le sujet a évolué. D'abord, les Chinois, désormais, nous parlent de Taïwan. Moi, je vois le virage depuis août 2022 et avec les manœuvres chinoises qui ont suivi la visite de la responsable de l'administration américaine, Nancy Pelosi, à Taïwan. Donc, les Chinois nous en parlent et je pense qu'une partie des Chinois, pas tous sans doute, mais ont peur d'une telle perspective. Ont peur pour des raisons économiques à cause des sanctions qui suivraient. Ont peur pour des raisons familiales parce qu'ils n'ont pas envie de perdre leur enfant unique au cours d'une guerre qui pourrait être plus meurtrière que la propagande ne leur dit. D'un autre côté, je suis aussi allé à Taïwan et je vois les Taïwanais paradoxalement moins inquiets qu'on ne l'est en Occident, peut-être à tort, mais ils ne croient pas la propagande belliqueuse communiste. Et par ailleurs, ils se disent qu'ils seraient défendus par le parapluie américain, ça c'est également à voir. Et troisième raison, il pense que l'armée chinoise n'est pas prête et que Xi Jinping ne sera pas prêt avant les années 2030. Par ailleurs, beaucoup de gens en Chine comme à Taïwan estiment et que Xi Jinping est prudent. Pourquoi? Parce que la réunification, comme disent les Chinois, ne serait pas la condition du renouveau de la nation chinoise, comme le dit la propagande, mais au contraire pourrait empêcher ce renouveau.
Il est beaucoup question, encore une fois, de la société civile. Dans ce livre, on croise beaucoup de monde, et des Chinois, et notamment les féministes. Alors, je crois que Mao disait « les femmes sont la moitié du ciel », et en vous lisant, on comprend que les féministes ont quand même, et notamment aussi les défenseurs, par exemple, de la communauté LGBT, ont beaucoup, beaucoup de soucis, hein.
Oui, les défenseurs de la communauté LGBT comme les féministes ont des soucis, comme tout Chinois qui compte s'organiser. Voilà, le Parti communiste refuse toute association, quelle qu'elle soit, qui ne dépendrait pas de lui. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, plus spécifique aux féministes, c'est que le parti estime que le pays actuellement a plutôt besoin de femmes à la maison et qui font des enfants plutôt que de femmes qui se présentent sur le marché du travail. La troisième raison, c'est que Xi Jinping, on le sait, ne fait confiance qu'à des gens qui ont été très proches de lui depuis des décennies, depuis toutes les décennies de sa longue carrière politique, et que par la force des choses, il était entouré d'hommes beaucoup plus que de femmes, et donc il n'y a plus de femmes aujourd'hui à la direction du parti et du pays. On peut également ajouter que le mouvement MeToo est vu en Chine comme un mouvement de l'Occident qui, en Chine, ne pourrait que remettre en cause l'ordre établi. Et évidemment, le Parti communiste redoute une telle évolution.
Alors, tu donnes beaucoup de réponses dans ce livre, mais tu poses aussi des questions. Il y en a une que tu aurais voulu poser au président chinois, qui, on le sait, ne prend pas d'interview, évidemment, surtout des journalistes étrangers. C'est de savoir s'il y a un apport de l'Occident à la Chine qui soit positif. Une officielle t'a répondu. Est-ce que tu peux nous donner sa réponse?
Oui, sa réponse fut Karl Marx. Point final, ce qui m'a un peu étonné, et je dois dire aussi que pour beaucoup de Chinois, Karl Marx est russe. Ils ont découvert qu'évidemment ils connaissent l'importance de Karl Marx, mais on ne leur précise que très rarement qu'il est allemand.
Merci Frédéric. On ne peut pas passer en revue tous les chapitres de ton livre, les ethnies sinisées, les riches obligés de se taire, les religions sous contrôle, l'écologie, le culte de la modernité et bien d'autres choses à lire donc dans ces 5 ans dans la Chine de Xi Jinping. C'est de Frédéric Lemaître et c'est aux éditions Taillandier. Merci beaucoup.